Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice?
Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver cette semaine, après une petite absence semaine dernière, pour de nouvelles chroniques de Maître Marie. Cette semaine, on va reprendre notre jeu favori, du moins je l'espère, votre jeu favori, le 4 à la suite, et on restera sur le doigt du travail. Et on va essayer de coller, comme toujours, à la situation actuelle avec pas mal de questions sur nos quatre questions justement relatives à la distance et à la visioconférence. Alors première question, ai-je le droit en tant qu'employeur d'imposer aux salariés l'activation de leur caméra lors de toutes nos visioconférences ? Eh bien, en raison du reconfinement, le télétravail est une nouvelle fois généralisé pour toutes les tâches qu'il permet. Et la règle est que les réunions en présentiel doivent être exceptionnelles. Celles-ci doivent être organisées soit en audio, soit en visioconférence. Ces règles posées afin de limiter la propagation de l'épidémie, les réunions se font par téléphone, téléconférence ou par écran interposé, visioconférence. Pour plus de convivialité et une meilleure interaction entre les participants, on peut éprouver le besoin de demander aux salariés d'activer leur caméra lors de ces réunions à distance. Mais là se pose une nouvelle question par rapport au respect des libertés individuelles fondamentales et notamment au respect de la vie privée. Pour la CNIL, l'activation de la caméra peut porter atteinte à la vie privée, notamment des personnes qui sont présentes au domicile du salarié. Pour rappel, il ne peut pas être apporté aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Dans son question-réponse sur le télétravail, la CNIL recommande de ne pas imposer l'activation de la caméra des salariés lors des visioconférences en application du principe de minimisation des données prévues par le RGPD. Même si l'image participe à la convivialité de la réunion dans la plupart des situations, le micro suffit pour participer et échanger lors d'une réunion. Donc non, vous ne pouvez pas généraliser l'usage des caméras lors des visioconférences. Le salarié est en droit de refuser l'activation de caméra et ainsi s'opposer à la diffusion de son image en mettant en avant les raisons tenant à sa situation particulière. Deuxième question. Ai-je le droit de sanctionner un salarié qui refuse de se rendre à son entretien annuel d'évaluation ? On sort un peu là des questions relatives au télétravail et au distanciel, mais la question est intéressante. L'entretien annuel d'évaluation des salariés est un moment important pour le manager et ses collaborateurs. Il a notamment pour but de mieux connaître les collaborateurs, mieux comprendre leur mode de fonctionnement et leurs aspirations, reconnaître et valider leurs compétences et donc les stimuler, etc. Et l'employeur tient de son pouvoir de direction le droit d'évaluer le travail des salariés. Mais attention, avant d'évaluer l'aptitude professionnelle des salariés, il faut les informer des techniques et des méthodes qui vont être utilisées. Les évaluations peuvent avoir une incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière et leur rémunération. Si elles sont de nature à engendrer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail, le comité social et économique doit être consulté avant leur mise en place. C'est l'article L2312-8 du Code du travail qui en décide. Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à cette mise en œuvre des dispositifs d'évaluation dans l'entreprise, puisque ces techniques permettent un contrôle de l'activité des salariés. Alors oui, dans de telles conditions, le salarié qui refuse l'entretien a un comportement fautif qui peut être sanctionné, cette sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Mais attention, pour pouvoir sanctionner un salarié qui refuse de passer un entretien d'évaluation, vous devez avoir respecté la procédure de mise en place, information et consultation des représentants du personnel et information des salariés. Et on notera également que cet entretien d'évaluation n'ayant en rien un caractère disciplinaire, les salariés n'ont pas besoin d'être assistés d'un représentant du personnel. Troisième question, qui nous ramène un peu à la distance et au distanciel en ce moment. L'employeur a-t-il le droit de suspendre la prise en charge mensuelle des titres de transport des salariés actuellement en télétravail continu ? Sous certaines conditions, l'employeur a l'obligation de prendre en charge une partie des frais de déplacement des salariés qui utilisent un moyen de transport public ou de service public de location de vélo. La prise en charge est de 50% minimum du coût des titres d'abonnement pour les déplacements accomplis entre la résidence habituelle et le lieu de travail. Le remboursement est effectué sur la base des tarifs de deuxième classe et doit correspondre au trajet le plus court entre le domicile et le lieu de travail. Il doit avoir lieu au plus tard dans le mois suivant celui pour lequel l'abonnement a été utilisé. Les titres de transport annuels font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation. La prise en charge des frais de transport s'applique également lorsque le télétravail s'effectue par alternance, par exemple un ou deux jours par semaine. Dans ce cas, on doit rembourser le titre de transport dans les conditions habituelles, sans abattement des jours effectués en télétravail, car le montant de l'abonnement du salarié n'est pas modifié. La situation est différente si le télétravail est en continu, comme le recommande actuellement le ministère du Travail, en raison de l'épidémie de Covid-19. Donc oui, si vos salariés sont en situation de télétravail à domicile en continu, en raison de la crise sanitaire, vous n'êtes pas tenu par l'obligation de prise en charge des frais de transport. Les salariés n'effectuent aucun trajet en transport en commun pour se rendre à leur lieu de travail. Mais attention, la prise en charge n'est pas modifiée si les titres d'abonnement ont été utilisés au moins une fois pendant la période de validité. Pour un abonnement mensuel, on rembourse l'intégralité de l'abonnement si le salarié est venu travailler quelques jours dans le mois. Ainsi, lors du premier confinement qui avait commencé le 17 mars, il fallait prendre en compte l'intégralité de l'abonnement du mois de mars pour le calcul de la prise en charge des frais. Et le principe se répète et est à nouveau appliqué pour ce confinement 2 dont, on l'espère, il touche bientôt à sa fin. Et en cette période, avec toujours la distance, dernière question, a-t-on le droit d'organiser les réunions du CSE par conférence téléphonique ? En temps normal, il est possible d'organiser des réunions du comité social et économique à distance. Le Code du travail prévoit le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE. Ce mode de réunion peut être organisé par accord collectif et à défaut d'accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile, selon les dispositions de l'article L2315-4 du Code du travail. Mais en raison de la pandémie, il est demandé de privilégier les réunions à distance. Et pour cela, les règles sont assouplies pour les réunions convoquées pendant toute la période d'état d'urgence sanitaire. Alors oui, vous pouvez recourir à la conférence téléphonique pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel. Cette possibilité n'est pas limitée à la seule relation avec le CSE. Un décret publié le 11 avril 2020 précisait les modalités pour organiser des réunions en conférence téléphonique. Le dispositif technique doit garantir l'identification des membres ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. Il ne doit pas faire obstacle à la tenue des suspensions de séance. En cas de vote à bulletin secret, le dispositif doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées pour la visioconférence. L'identité de l'électeur ne doit pas pouvoir être mise en relation avec l'expression de son vote. Et en cas de vote électronique, le système doit garantir la confidentialité des données transmises, la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Vous informez les membres du CSE de la tenue de la réunion en conférence téléphonique en suivant les mêmes règles applicables à la convocation des réunions de l'instance. Voilà pour nos 4 questions, notre 4 à la suite en droit du travail. J'espère qu'il aura pu vous apporter soit de nouvelles informations, soit confirmer ce sur quoi vous vous étiez renseigné, soit vous confirmer que vous faites bien actuellement pour vous adapter à la distance qui nous est imposée. J'aurai grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques de Maître Marie. Et je vous laisse maintenant avec la suite de votre patchwork. À bientôt. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice?
Bonjour chers auditeurs, Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre du roman de Frédéric Coudron, « La suerte des matars », dans lequel Lise, journaliste féministe et anti-corrida, doit réaliser pour TF1 le portrait d'un torero à la réputation de séducteur irrésistible, le légendaire Manuel Ortega. Juin 2018, Mexico, Plaza de Toros Monumental. Il était temps de rejoindre notre place dans les gradins des arènes. Nous étions situés en Barrera de Sombra, ce qui concrètement signifiait que nous nous trouvions à l'ombre, mais surtout que nous étions en toute première ligne, au plus près de la piste. Tu ne pouvais pas choisir des places encore plus proches, Paco. Plus près, il n'y a pas, à part le Callejón, mais il faut être invité. Tu as peur de ne pas bien voir ? Il vit immédiatement dans mon regard que je n'étais pas d'humeur. Blague à part, Lise, pour filmer, je pense que c'est l'endroit idéal. Oui, je sais, mais pour une première, tu avoueras que ça fait beaucoup. J'aurais préféré voir tout ça de loin, de très loin même. Paco ne répondit pas et se concentra sur sa caméra. Mon comportement puéril devait l'agacer, et c'était pour lui un moyen de se calmer. Enfin, tous les acteurs firent leur entrée sur la piste, ce qui raviva mon coéquipier. « C'est la parade, le paseo, Lise. » « Ça consiste en quoi ?»« Regarde, tous les participants défilent dans l'arène par statut et par ordre d'ancienneté. D'abord, les alguacililios, suivis des matadors. Ils ont la tête nue, tu as vu ? Après, ils auront un chapeau. Ils sont suivis par les peones et les picadors, puis par les areneros et les monosabios, en charge de la remise en état de l'arène. C'est vachement protocolaire. » Je remarquai un détail étrange. Tiens, Paco, c'est débile, mais on dirait que les matadors ont tous, leurs attributs positionnés à gauche. Il fut pris d'un fou rire incontrôlable. Leurs attributs ? Ah, tu veux dire leur coucougnette ? Eh bien, figure-toi qu'il y a une explication technique. C'est dû au geste de l'estocade qui se fait de la main droite, y compris par les gauchers, ce qui expose la jambe droite. Ils estiment ainsi qu'à gauche, leurs bijoux de famille sont mieux protégés, même si certains toreros, très rares, estoquent de la main gauche. Il faut savoir que les toreros ne portent ni coquille ni protection, car ce n'est pas dans les mœurs. Et oui, un torero n'est protégé que par sa technique. Les acteurs furent acclamés, puis certains disparurent, et d'autres se répartirent autour de la piste. Là, deux hommes arrivèrent dans le ruedo. Ils tenaient un panneau où étaient inscrits des noms espagnols, un âge, 4 ans, et un poids, 585 kilos. C'est quoi ça ? Ça veut dire quoi les inscriptions sur la pancarte ? Desgarbado est le nom du premier taureau. Montalbo est le nom de son élevage, sa ganaderia. Et ensuite, tu as son âge et son poids. C'est horrible ! Et comment ça, le premier taureau ? Oui, le premier des 6. Quoi ? On va voir 6 corridas à la suite ? Tu te fous de moi ? Non, une seule. Mais dans une corrida, il y a 6 taureaux. Tu ne savais pas ça ? Ah non, ça je ne savais pas. De mieux en mieux. Ceux que Paco m'avait désignés comme les peones, El Carrillo et Ortega, s'agitaient déjà sur la piste, munis de capes roses. Soudain, Desgarbado sortit du toril en furie. C'était une bête magnifique, tout en muscles, à la robe d'un noir profond et brillant. Il était immense et terrifiant. Je me rendis compte que je n'avais jamais vu de vrai taureau de ma vie. On était très loin des vachettes d'Interville que je m'attendais à découvrir. Paco prenait des images. En même temps, il commentait à voix basse pour m'aider à comprendre tout ce qui se passait. « Ce taureau est parfaitement équilibré. Il a du gaz. » J'écoutais d'une oreille distraite. En moi-même, une sensation inédite et insupportable se révéla. Je me trouvais face à une mort programmée. J'avais beau avoir interviewé les pires tueurs en série de la planète dans le cadre de mes reportages, je n'avais jamais vu personne mourir, à part une mouche ou un moustique peut-être. Là, je voyais un animal magnifique, en pleine santé, bien vivant, et je savais qu'il mourrait quelques minutes plus tard. J'eus le sentiment étrange et vain que je pouvais y changer quelque chose. C'était une parfaite illusion. J'allais vraiment mal. Ça dure combien de temps, Paco ? Entre 15 et 20 minutes par taureau, c'est la règle. Je m'éventais. La transpiration perlait sur mon front et je sentais les battements de mon cœur s'accélérer. Je n'étais pas loin du malaise. Les combats qu'on appelle Lydia vont pouvoir commencer. Les péonesses, avec leurs capes, commencèrent à effectuer quelques passes. L'un d'eux, grand et semblant peu agile, faillit se faire empaler par Desgarbado et ne dut son salut qu'à la planche en bois qui encerclait la piste et par-dessus laquelle il sauta. Le taureau fonçait invariablement vers les capes qu'on lui présentait. Paco filmait et analysait son comportement en même temps. « Il tourne beaucoup la tête après avoir passé la capote, tu as vu ? Il ne va pas être facile à taurer. » En moi-même, je pensais tant mieux, me disant naïvement que cela laissait une chance au taureau de l'emporter. Les hommes effectuèrent quelques passes, puis deux cavaliers entrèrent en piste sur les immenses chevaux que j'avais vus dans le patio. On va voir comment il réagit à la pique. Les péones jouaient avec le taureau, qui semblait vouloir se positionner dans l'axe de l'un des chevaux. Ce que je craignais arriva. Desgarbado fonça droit sur la monture et la percuta de plein fouet avec une violence extrême. La lance du picador s'enfonça entre ses omoplates. J'agitais mon éventail de plus en plus nerveusement devant mes yeux. Je ne pus m'empêcher de me tourner vers Paco, suppliante. « C'est horrible !»« Mais non, regarde. Ce taureau semble brave. Il ne souffre pas. » Le picador le teste simplement et le fatigue un peu pour la suite. Il le force à baisser la tête, regarde. Le taureau saignait déjà abondamment tout en s'acharnant sur le cheval qui manqua de tomber à la renverse. J'avais peur. Peur pour le brave canasson, peur pour le cavalier et peur pour Desgarbado. À la deuxième charge, je cachai définitivement mes yeux derrière l'éventail. J'avais envie de rendre, envie de prendre mes jambes à mon cou, de quitter l'arène. J'avais plus que jamais la chanson de Brel en tête. Les taureaux s'ennuient le dimanche, quand il s'agit de souffrir pour nous. Voici les picadors et la foule se venge. Voici les toreros et la foule est à genoux. C'est l'heure où les épiciers se prennent pour Garcia Lorca. C'est l'heure où les anglaises se prennent pour la Carmencita. Ça y est, on entame le deuxième tertio. Il y a eu de jolies piques sur le premier. Les chevaux sortirent du ruedo. Puis, un des peones se saisit de banderilles et gagna le centre de la piste. Il appela le taureau « Toro !» et se mit à virevolter devant l'animal qui le chargeait. L'homme planta les deux piques sur le haut du dos de Desgarbado. La foule se mit à applaudir. Paco semblait apprécier. Magnifique ! À son tour, El Carillo saisit deux banderilles. Matador banderillero ! Hurla une dame assise derrière nous. Le torero planta les piques en frôlant le taureau qui le bouscula au passage. La foule exulta. Tu as vu ça, Lise ? Sublime ! Je voyais juste un animal dont le sang coulait de plus en plus abondamment sur le sable. J'étais au bord du malaise. Le même El Carillo s'approcha alors des planches du Callejón. Il but un verre d'eau qu'un assistant lui tendit, prit une cape rouge et une épée. Puis lentement, il se dirigea vers le centre de l'arène. Là, il lança son chapeau en l'air. Le couvre-chef retomba sur son côté extérieur. Les spectateurs grondèrent, comme s'ils venaient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Une superstition veut que si la montera, c'est le chapeau, retombe à l'envers, c'est mauvais signe pour le matador. Regarde, il le remet en place avec son pied. Pareil, on ne pose jamais la montera sur un lit, parce que ça porterait malheur. En fait, il ne doit pas y avoir de revers, pour éviter le revers de fortune. Tiens, une anecdote. En 1987, à Madrid, Rossellito s'habille chez lui. Sa future belle-mère, qui n'y connaissait rien en corrida, dépose sa coiffe sur son lit. Son valet s'écrie « Non, surtout pas sur le lit !» Mais Rossellito laisse faire. Eh bien, le jour même, dans l'arène, il se fait trancher la gorge par le taureau. Par miracle, il n'est pas mort de ses blessures. Et il a bien pardonné à sa belle-mère, puisqu'il a épousé sa fille. J'espère que la faena va être belle. Effectivement, El Carillo retourna à sa montera avec précaution et il appela Desgarbado. « Toro, toro !» Il entama, avec sa muleta, une série de passes que je regardais à peine malgré les commentaires de Paco qui essayait de m'intéresser au spectacle. À un moment, le matador se mit à genoux devant la bête et l'évita de justesse. La foule retint son souffle et applaudit. L'orchestre dans les tribunes commença à jouer. Je dois l'admettre, la musique était belle. Le torero multipliait les actes de bravoure, haranguant à chaque fois les spectateurs, défiant le taureau du regard comme un boxeur, levant les bras au ciel, paume vers le haut, pour réclamer plus d'applaudissements. Il torait le public. Je n'aime pas forcément cela, mais la foule, oui, apparemment. Vint l'instant que je redoutais le plus, la mise à mort du taureau. Je ne la regardais pas, cachée derrière mon éventail. Une larme coula sur ma joue sans que je m'en aperçoive immédiatement. Dommage, l'estocade n'a pas été terrible. Descabello... Pris dans le spectacle, Paco ne remarqua pas que je pleurais derrière mes lunettes de soleil. La foule applaudit. Je n'osais regarder la piste. Un de mes voisins de droite, un Français, se leva et agita un mouchoir blanc. « Ça vaut deux oreilles !» Et El Carillo obtint ses deux oreilles. Lorsque mes yeux se reposèrent sur le Ruedo, il effectua un tour de piste, conquérant ses trophées en main. À son passage, les aficionados se levaient et applaudissaient de plus belle. Je restais assise, choquée par ce que je venais de vivre et par ce que je voyais. Comment, en 2018, pouvait-on encore encenser comme une rockstar un type qui brandissait les oreilles d'un animal torturé? J'allais reprendre mon souffle lorsqu'on annonça déjà le deuxième taureau. Les deux premiers tercios se déroulèrent quasiment de la même façon que lors de la première sortie. Je ne les regardais pas, me réfugiant derrière mes lunettes et mon éventail. Ortega entra en piste pour la faena. Par pur professionnalisme, je me forçais alors à ouvrir les yeux un minimum. Après tout, nous étions là pour faire un reportage sur lui. « Ah, te revoilà Lise, ça fait plaisir. On t'avait perdu ?» Je ne répondis pas, toujours choquée, dans un état second. Ortega gagna le centre de la piste. Son pas était lent et gracieux. Contrairement à El Carillo, il ne haranguait pas la foule. Il semblait être dans sa bulle. Il effectua une première passe. Ses pieds ne bougèrent absolument pas et le taureau le frôla. « Il taurait de face, tu as vu cela? Il faut oser !» Le taureau revint aussitôt à la charge et le matador ne bougea toujours pas les pieds. Il se tenait parfaitement droit, impassible, presque serein là où El Carillo s'était agité comme un boxeur dans un ring. Le maestro, comme l'appelait Paco, affronter avec placidité le danger, sans concession ni artifice, le corps fin et vertical. Il ne montrait aucune émotion, se contentant de gestes sobres et épurés. Il était incroyablement silencieux par rapport à son prédécesseur. Il n'y avait que lui et le taureau. « Tu as vu ce temple, Lise ?» Le temple est le fait de synchroniser les mouvements de la muleta avec le rythme du taureau. Je ne répondis pas, mais je dus admettre qu'au fur et à mesure des passes, j'éprouvais une sensation étrange et dérangeante. Une sensation absolument inattendue. Je trouvais cela beau, presque mystique, érotique. J'essayais évidemment de chasser ce sentiment de mon esprit, de me raisonner, de détourner les yeux de ce qui se passait. Mais j'étais irrésistiblement troublée par cette danse entre l'homme et l'animal. Je n'en dis rien à Paco, J'avais honte de moi. « Suerte de matar !» La mise à mort arriva. Je la regardai d'un œil. L'épée s'enfonça et le taureau mourut comme foudroyé. La foule se leva. Ortega resta de marbre. Voilà, chers auditeurs. Si vous voulez connaître la suite, je vous invite bien évidemment à me retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver les podcasts de toutes les émissions sur le site www.espritoccitanie.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine !